D'accord. Alors, je suis en cage. Bon, bonjour. Voilà, donc, remercie à Denis qui va bien et qui est à Domesnil. Donc, c'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de venir ici. Donc, voilà, donc j'ai beaucoup de joie de rencontrer des frères et sœurs de Nation avec qui on a fait un bout de chemin. Et lorsque nous y étions, et voilà, la vie continue. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais qu'on médite sur le psaume 27. Je m'en ai offert de préciser. Alors, ce psaume, il a beaucoup d'éléments, et j'aimerais aussi qu'on aborde une question particulièrement que David soulève et qui fait partie de notre environnement aujourd'hui dans cette nouvelle vie, je dirais. Quand tu es prêt, le psaume 27, s'il te plaît. C'est dans la version, je pose la version français 21, second 21. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devais-je redouter? Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Mon cœur s'est levé contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te cherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi. Des hommes ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Le thème que j'aimerais aborder avec vous est déjà dans les premiers versets. David dit ceci, l'Éternel est mon salut, de qui aurais-je peur? Et j'aimerais aborder avec vous le thème de la peur. C'est quelque chose de très, très répandu. Et je dirais, s'il y a un an en arrière, on nous avait dit que l'humanité allait vivre un tel événement, personne n'aurait cru que, justement, ça allait atteindre l'économie, la santé et aussi le domaine spirituel. La preuve, tout le monde porte des masques. Et la pandémie du Covid est arrivée. Un bilan humain terrible parfois, celui de l'économie, atteint des sommets et nous ne sommes pas prêts d'en voir la fin. Du point de vue psychologique, la peur est suscitée par cette pandémie et continue à produire ses effets, ainsi et là. Et pendant le confinement, les gens passaient beaucoup de temps à écouter les nouvelles, mais souvent c'était des mauvaise nouvelle. Le nombre de morts, le nombre de ceci, de cela, qui affectait nos pensées. Ce n'est pas le fait d'écouter, parce que ce que tu écoutes, ce que j'écoute, affecte tôt ou tard ma pensée. Si tu écoutes la Bible va affecter tes pensées. On va le voir avec Lamentation 3 tout à l'heure. Et donc cela nous ramène à notre fragilité, fragilité humaine, et nous informe quelque part, et beaucoup même, que nous sommes des mortels. Par conséquent, nous sommes limités, c'est notre prénom. Je m'appelle Limité aujourd'hui. Cela fait, et face à cela, quel encouragement pour nous chrétiens, quel encouragement dans le Seigneur, quel encouragement dans sa parole. Paul disait aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, 11, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans les manœuvres du diable. » Donc nous allons examiner et parcourir les paroles de David, ce qui nous procède. Et vous voyez qu'on parle de la peur et non pas de sa peur. Hein? Il n'a pas acheté la peur quelque part à Carrefour. Il avait une peur et ce n'était pas sa peur à lui. D'ailleurs, il ne l'avait pas d'ailleurs. David dit que je n'ai pas, qu'il déclare qu'il n'a pas peur. Certes, les raisons sont davantage spirituelles et on en sait les raisons. Et ne pas avoir peur, ça l'aide aussi dans son choix pour la suite. Mais qu'en est-il de ceux qui ont peur? Qu'en est-il de ceux qui ont réellement peur? Qu'en est-il de nous, par exemple, chrétiens qui avons peur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les choix? Alors, regardons ce que David nous propose ici. David propose déjà le verbe trois proclamations de David. On va les examiner pour voir quels sont les outils, les richesses qu'il aborde ici. David proclame, c'est le mot que je retiens, proclame plusieurs choses. Proclamer, c'est affirmer quelque chose avec force. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit amen, parce que bon, c'est pas simplement un mot de politesse, de gentillesse. On dit amen parce qu'on croit ce qui est dit. Des fois, je dis pas amen parce que je suis pas convaincu qu'il faut dire amen. Ne croyez pas qu'il faut toujours le dire. Amen. D'accord. Bon, vous dormez pas, Seigneur. Ok, ok. Donc, David affiche ici son assurance totale en son Dieu. Dieu est le fondement de sa vie et c'est tout naturellement qu'il n'accepte pas d'autres maîtres diligencer sa vie, laisser, ni influencer, ni contrôler, ni dominer par la peur de ses ennemis. Sa force, comment fait-il pour en avoir? Alors, première chose, premier point, l'Éternel est ma lumière. Deuxième point, l'Éternel est mon salut. Et puis troisième point, l'Éternel est le soutien de ma vie. Donc ça veut dire qu'il y a l'assurance, la confiance. Donc trois proclamations successives que nous allons aborder dans ce petit parcours. Premièrement, l'Éternel est ma lumière. Son premier fondement, cette lumière, elle est davantage, c'est pas le soleil, c'est la lumière spirituelle, parce qu'elle habite son cœur et éclaire ses pensées. Lorsque nous avons peur, qu'est-ce qui se passe? Notre rythme cardiaque augmente, hein, et s'accélère, preuve que quelque chose se produit, non pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Mais parfois, d'autres tremblent. Il y a double contact, je pourrais dire, le cœur intérieur et le corps qui exprime quelque chose de violent et de très, qui déroute. Donc, le cœur dans la Bible correspond à notre être intérieur qui communique avec Dieu et à sa parole. C'est le seul mot ce seul mot désigne dans la Bible des activités de l'âme. La psychologie classique la représente sous des termes comme sensibilité, intelligence, volonté, conscience, morale. David affirme qu'en étant tourné vers Dieu, son cœur demeure, comme dit le psaume 91, à l'abri du Très-Haut, pas du plus petit, hein, du Très-Haut. Excusez-moi, mes feuilles sont dans les autres comme dans le tiercé. Excusez-moi ceux qui regardent dans Zoom. Donc, David affirme que son cœur est à l'abri parce que Dieu est en œuvre dans sa vie. Donc, c'est un choix payant que l'on retrouve, on va retrouver, et j'aimerais qu'on examine ce matin un petit peu, Lamentations 3. Lamentations 3 nous donne les éléments pertinents pour que nous puissions les exploiter de manière utile pour notre vie. Alors, je vous demande, hein, Lamentations 3, versets 18 à 25. Après avoir, pendant 25 fois dans ce chapitre, déclaré que Dieu était incompétent, il m'a fait ça. Alors, on arrive à ce verset 18. J'ai dit, c'est pas jeudi, mais c'est j'ai dit, c'en est fini de mon avenir. Je n'espère plus rien en l'Éternel. Et maintenant, il y a une partie qui s'ouvre. Oh, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens. Je répète le verset 19. Souviens-toi. Et maintenant, il prend quelque chose. Sans cesse, je m'en souviens. Conséquence, je suis abattu. Les mauvais souvenirs, les mauvaises références de Jérémie l'amènent à s'en souvenir. Mais quel résultat? Abattu. On aurait dit qu'il a pris 2 balles. Mais, il y a un mais dans la suite du verset. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui, comme Jérémie, comme David, et peut-être que pour chacun d'entre nous. Question, à quel moment le déclic survient pour Jérémie? Est-ce que c'est pendant lorsqu'il se plaint et qu'il ne se passe rien, puisqu'il dit « je m'en souviens, je suis abattu » Et à quel moment quelque chose se passe dans le domaine spirituel? Regardons verset 24. Il dit ceci. Il dit que les compassions de l'Éternel, ça s'appelle la connaissance de l'Éternel qui est là. Mais le verset 24 marque une étape plus forte et plus pertinente. C'est au moment où il dit, j'ai dit, au moment où il dit, j'ai confessé, j'ai proclamé, j'ai reconnu. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. Matthieu 6, verset 35, je crois. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres sont grandes. Mais à un moment donné, Jérémie n'était pas entouré de lumière intérieure. Il dit, je suis abattu. La lumière n'abat personne. La lumière éclaire quelqu'un. C'est au moment où il dit, j'ai dit quoi? L'Éternel. Le premier mot qu'il utilise après l'avoir dit, j'ai dit, c'est l'Éternel. Ce n'est pas les évangéliques, c'est l'Éternel est mon bien. Quel est ton bien ce matin, la peur ou l'Éternel? J'ai confessé, j'ai proclamé la grandeur de Dieu, sa puissance, sa souveraineté sur mon âme, dans ma vie. Au moment où Jérémie confesse toute la puissance de Dieu, quelque chose se produit au niveau de son cœur. Qu'est-ce qui se passe là? On peut imaginer. Ce cœur est libéré, le Saint-Esprit, le Consolateur, vient libérer les pensées qui étaient en Christ. Son cœur dans son cœur, car, dit Jésus, la vérité vous rend libre. Cette vérité, c'est celle qu'il proclame au sujet de son Dieu. J'ai dit l'Éternel est mon bien. Et encore un détail, l'environnement de Jérémie n'a pas changé, ne change pas si vous lisez le chapitre 5. Mais c'est à l'intérieur, lorsqu'il prend position pour Christ, c'est ça qui change son univers. Il se rappelle à lui-même que son Dieu est bon et qu'il prend soin de son âme et dit, mon âme, retrouve ta paix, car l'Éternel t'a fait du bien, dit le psalmiste. Nous avons au psaume 107 4 situations qui sont pratiquement très, très, très dures. Vous lirez à la maison. Nous décrivons des groupes de personnes prises dans les épreuves pour lesquelles personne n'a de solution. Et les personnes vont crier à Dieu pour son aide. Or, les situations bien différentes les unes entre elles, et à chaque fois, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu accomplit ce qu'on appelle la délivrance du cœur. Je suis au psaume 107, le verset 6, verset 13, verset 19 et verset 28. Je résume la prière commune. Je résume l'appel collectif. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Où se trouve l'angoisse? Dans les cheveux? Dans les pieds? Non, dans les cœurs. On observe que Dieu a produit une délivrance dans le cœur et ce fut ainsi pour chaque groupe. En fait, si nous ne vivons pas la paix de Dieu dans nos cœurs, ce dernier, qui est un refuge, la peur va prendre la place du Saint-Esprit. La peur va prendre la place de l'encouragement. La peur va prendre une place, je dirais, illégitime. Des angoisses dans nos pensées vont nous affecter. Par conséquent, notre cœur devient un lieu stratégique, soit dans la paix de Dieu qui triomphe, soit dans la peur, les soucis, les inquiétudes diverses. Paul déclare aux Corinthiens, 2 Corinthiens 10, verset 3, « Si en effet nous vivons, et ça c'est intéressant, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière ou captive pour qu'elles obéissent à Christ. » Regardez ceci. Paul vient de proclamer que justement qu'il y a un combat spirituel, que les armes sont spirituelles, mais au verset 5, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, elles viennent de Dieu. Mais au verset 5, il y a un élément qui est à prendre en compte. Il dit « nous renversons les raisonnements ». Je me suis dit, mais pourquoi il ne dit pas « Dieu renverse les raisonnements » ? C'est toi qui renverses les raisonnements. Deux fois « nous renversons les raisonnements, nous faisons toute pensée captive ». Pourquoi « nous » ? Pourquoi pas « Dieu » ? Dieu nous donne les armes, il donne le courant, c'est à toi de faire venir l'EDF, et il nous donne les armes spirituelles, c'est à nous de les utiliser. Dieu ne les utilise pas à notre place. Si tu donnes la nourriture, il faut que tu manges. Si tu donnes la prière, il faut que tu pries. Si tu donnes la joie, il faut que tu sois joyeux. Donc tu as une partie, Dieu fait sa partie à la croix, mais ce qui te convient, ce qui te concerne, tu dois, etc., parce que Dieu te rend responsable quelque part. Ils ne te rendent pas coupable, bien sûr, mais ils te rendent responsable parce que l'enfant, les parents s'en occupent, mais nous, on doit grandir avec une connaissance, avec un développement harmonieux, sagesse, intelligence spirituelle, comme Paul dit aux Romains. Donc, Lamentation 3 et ce texte de Paul nous ramènent à notre responsabilité de prendre position en fonction de notre identité, en fonction de ce que nous sommes dans le Seigneur. Je crois que c'est Colossiens 1, verset 12. Il est dit que Dieu nous rend capables. Dieu nous rend capables d'avoir part à l'héritage qui réserve les saints dans la lumière. Est-ce que tu es quelqu'un de capable ou d'incapable? Est-ce que Dieu fait de nous des incapables? Il nous rend capables. Non pas parce qu'on a fait beaucoup d'études, mais c'est parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ma grâce te suffit. Et ma grâce te rend capable parce que si nous étions loin, aujourd'hui, nous sommes devenus près de Christ à cause de l'Évangile, à cause de la croix. Donc, je vais ouvrir une parenthèse. Je ne vous connais pas, mais peut-être je vais le dire tout à l'heure deux fois. Puisque la parole de Dieu dit que nous sommes capables, qui veut prendre le pari de se traiter d'incapable, de nul ou d'autre chose? Le Seigneur nous dit « tu es capable ». L'autre qui n'a pas appris grand-chose, Paul aussi, Le Seigneur a dit des choses pour sa propre vie. Le Seigneur te rend capable parce qu'il veut, il veut justement qu'on soit debout et non à genoux. Alors, genoux, c'est pour prier, mais debout, c'est pour marcher, pour faire les choses. Il ne s'agit pas de tomber dans l'orgueil. On est d'accord. Hein? Attention. Hein? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Hein? Mais le Seigneur nous rend capable au niveau spirituel, je veux dire. C'est ça que je veux dire. Et comme nous sommes ses enfants, et comme un père aime ses enfants, si mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à bien plus forte raison, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Dites-le comme vous voulez, ce n'est pas un problème. Vous voyez? Ne dis pas que tu es incapable. Je vais aller encore plus loin. Ce n'est pas une provocation, mais c'est une exhortation. Ne le prenez pas mal parce que ça peut vous déranger. Combien d'entre vous, d'entre nous, n'osent pas prier ici? Ça m'attriste. Je ne suis rien, bien sûr. Mais nous sommes avec notre Père, il est avec nous, et il veut que nous soyons ses enfants libres. Paul dit en Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchie. Est-ce que tu vis comme un affranchi de la peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Je veux m'écarter de mon texte parce que je veux quand même aller dans le sujet. Une fois, une sœur est venue à l'église et on avait un entretien et ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas de bagarre. Et puis après, je lui ai dit, est-ce que tu veux prier? Et elle m'a dit non. Tu es chrétienne? Oui. Qu'est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Non. Je dis d'accord. J'ai dit, est-ce que moi je t'influence? Est-ce que moi je suis un opposant? Elle m'a dit non, c'est pas toi. J'ai dit d'accord, c'est bon. J'ai dit, on va faire ce qu'il faut. Parce que lorsque le Seigneur nous dit qu'on est capable, il ne faut pas traiter les gens d'incapables. Il y a un problème spirituel que l'ennemi veut te faire croire que tu es incapable. Et si tu le crois, ça va marcher. Si tu crois qu'il y a un serpent là, tu vas pas rentrer, puisqu'il y a un serpent. Tu es peut-être dans ta tête, mais peu importe là où il est, mais c'est un handicap. Je dis maintenant, je te propose de prier, et puis, non pas qu'on va voir, mais ça va s'arranger, quoi. Et j'ai prié pour que, prenant autorité, comme Paul dit ici dans 2 Timothée 10, que les forteresses doivent être tombées parce que Dieu veut mettre, non pas une forteresse, mais sa liberté. Donc j'ai prié pour qu'elle prie. Et puis quand j'ai fini, j'ai dit, est-ce que tu peux prier? Elle s'est mise à prier. Qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai rien de plus que vous. Mais on a quelque chose qui est la puissance de Dieu. Acte 1, verset 8, c'est quoi? Vous recevrez une faiblesse. Non, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est ce qui a permis aux apôtres de travailler après. Le jour de la résurrection de Christ, je ne suis pas mes textes, mais ce n'est pas comme ça. Le jour de la résurrection de Jésus-Christ, le jour de la résurrection, où c'était la vie, où est-ce qu'ils étaient? Ils n'étaient pas montrés, mais ils étaient fermés. La porte à double tour, ils avaient peur de s'en étreindre, de tout ce qu'on pouvait faire. Des hommes pour lesquels le maître est ressuscité se trouvent maintenant dans la peur. Et pendant 3 fois, le Seigneur dit que ma paix soit avec vous. Et le Seigneur leur a donné le consolateur pour les consoler. C'était sa première partie. Mais le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas reçu le consolateur, ils ont reçu une puissance pour le ministère. Le consolateur est venu à l'intérieur le jour de la résurrection. C'était pour travailler dans leur cœur, parce qu'ils avaient peur. Mais le jour de la Pentecôte, ils ont reçu la capacité de faire les choses. À telle enseigne que dans les textes qui vont suivre après, jamais ils ont eu peur, ni des Romains, ni des Français, ils n'étaient pas là, mais des Sanhédrin. Personne ne leur a fait peur. D'ailleurs, ils diront, mieux vaut, aidez-moi, mieux vaut obéir à Dieu, je suis au diesel, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Et ils n'ont pas baissé les bras. Ils n'étaient pas des provocateurs. Ils étaient là au nom de Jésus. Et donc, ce que Dieu voulait qu'ils fassent, et même s'ils prennent des coups, d'ailleurs, ils disaient, nous sommes contents d'avoir pris des coups pour le nom de Jésus. Il ne s'agit pas d'aller prendre des coups pour rien, hein, mais de dire que le Seigneur, on veut être fier de lui. Et donc, lorsque tu es ici ce matin, tu as le droit d'invoquer ton Père. Tu es libre. Enfin, tu devais être libre plutôt. Et c'est ce que le Seigneur veut donner. Et parce qu'on est libre, on peut faire tellement de choses. Au lieu de confesser, je ne peux pas, je ne peux pas. Bien sûr, chacun peut. Moi, je veux pas faire de la musique, mais vous faire autre chose. Voilà. Excusez-moi. Le deuxième élément, Jésus dit ceci, hein. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. La peur peut nous mettre dans les ténèbres, hein, avec des fausses conceptions de notre liberté, de notre identité. Donc, le Seigneur est le meilleur soutien ce matin pour dans nos besoins. Et la paix de Christ nous garde, son Saint-Esprit aussi, produit en nous le calme et la confiance. Deuxième élément de David dans notre récit, l'Éternel est mon salut. C'est celui qui le délivrait, de Samuel 7, verset 9, celui qui le délivrait de tous les ennemis terrestres, hein, de Samuel 7, verset 9, je t'ai accompagné partout où tu as marché, j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi. Donc Samuel lui fait entendre l'œuvre de Dieu, et David ne peut que justement approuver ce qui a été fait, parce que bon, ça s'est passé dans sa propre vie. Un rappel, n'est-ce pas? Cela nous conduit à évoquer le nom de Jésus. L'Éternel est mon salut. Le nom de Jésus, ça veut dire « Dieu sauve ». Vous le savez, on va dire juste un peu de rappel. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Le nom de Jésus signifie le nom même de Dieu est présent dans la personne de son Fils, fait homme, pour la rédemption universelle et bien sûr de l'humanité, mais aussi par rapport à notre péché. Il est le nom divin qui seul apporte le salut et peut désormais être invoqué partout, car il s'est approché de nous, bien sûr par l'incarnation, de telle sorte qu'il y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le mot « sauver » veut aussi dire « guérir ». Les deux, ça va dans le même sens. Ça veut dire que si tu as une peur, le nom de Jésus, d'ailleurs c'est mieux comme ça, c'est lui qui peut agir dans ta vie. Le psaume 27 cache un autre secret. Il revêt un attrait particulier quand on pense qu'il exprime en quelque sorte les pensées les plus profondes du Seigneur aux heures fatidiques qui ont été précédées, qui ont précédé la croix. On va juste faire un petit rappel. Le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? On va essayer d'appliquer cela à Jésus, pour voir un peu comment ça correspond, et ça correspond vraiment. Quand les principaux sacrificateurs, les gardes du temple et les anciens juifs vinrent dans le jardin de Gethsémané pour arrêter Jésus, celui-ci leur dit, c'est ici votre heure, Jésus qui leur dit ceci, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Luc 22, verset 53. Au même instant, il se peut qu'il ait eu la lumière puisée dans les consolations qu'on trouve au psaume 27. Hein? L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Alors, Dieu était sa lumière au moment, je parle de Jésus là, Dieu était sa lumière au moment où les ténèbres allaient l'envelopper. Dieu était son salut, celui qui le délivrait de tous ses ennemis terrestres. Pas seulement terrestre. Mais je ne sais pas si vous avez déjà pensé une seule seconde, le nombre de démons qu'il y avait pour attaquer Jésus sur la croix. Toutes les puissances démoniaques, je ne sais pas, parce que je sais que dans un homme, il y avait 1200 démons, l'homme de Gadara. Mais vous imaginez le nombre de démons qui sont venus pour mener cette guerre spirituelle contre Jésus sur la croix. Je ne sais pas le nom, mais peu importe. Et donc, l'Éternel était son secours, qui le délivrait de tous ses ennemis terrestres, les hommes, mais particulièrement les esprits méchants. Dieu était la forteresse de sa vie, un refuge dans la tempête. Donc, possédant toute cette protection, Il n'avait pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit parce que Dieu était son protecteur. Attention, j'entends certains dire que Jésus avait peur. J'aimerais qu'on me montre où est-ce que c'est écrit. Parce que je n'ai pas de problème à croire, mais si on me dit que Jésus a peur, alors qu'il est venu pour vaincre la peur, alors il y a une chose différente entre la peur et l'angoisse. Les psychologues vont répondre, je ne suis pas psychologue. L'angoisse, c'est que, par exemple, si tu as une piqûre à prendre, que tu as peur des piqûres, bon, tu peux avoir un peu d'appréhension, avoir une appréhension. La peur parle d'un danger. Et Jésus, pendant plusieurs fois, avait annoncé qu'il allait affronter les ténèbres. Même Genèse 3, verset 15, il crase la tête. Donc, à aucun moment Jésus n'a peur. Il a connu l'angoisse parce que, tout simplement, son corps n'avait jamais connu le péché. Et l'angoisse de Jésus, c'était par rapport au péché, c'était pas par assez. D'ailleurs, on va voir tout de suite ce qui va se passer avec ces gens qui vont venir vers lui et quelle était la circonstance. Donc Jésus n'a jamais eu peur. Alors, deuxième chose, ne confondez pas Jésus et vous et moi. Moi, j'ai peur, ça peut m'arriver. Mais Jésus n'a pas peur. Parfois, pourquoi on fait des liens entre nous et Jésus? Des sortes de raccourcis. Eh bien, je pense pas. Alors. Vous avez le droit d'avoir une opinion différente. Hein? Après, on est frères. Hein? Alors, ne me jetez pas des tomates. Bon, simplement, on a le droit d'avoir une opinion différente. Mais je crois que Jésus n'a jamais eu peur. Parce que c'est lui qui nous rassure. N'ayez pas peur. Et on l'a vu, quand Pierre a coupé l'oreille de Malchus, il a remis l'oreille là-bas. Bon. Un peu plus loin. David, donc, a prophétisé en quelque sorte par rapport au Messie, en exprimant les mêmes sentiments. Et au verset 2, quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, c'est eux qui reculent. Regardez bien ce verset. Prenons maintenant Jean 18, verset 6. Jean 18, verset 6. Quelqu'un peut lire, alors je parlais trop là, quelqu'un peut lire? Je vous fais participer. Alors, pas tout le monde à la fois, mais je voudrais que quelqu'un lise. Jean 18, verset 6.
Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre.
Voilà. Lorsque Jésus dit que c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Qu'est-ce qu'on lit au psaume 27, verset 2? Ce sont mes ennemis, mes persécuteurs, mes ennemis qui trébuchent et tombent. C'est un hasard, ça? Levez la main. Non, pardon. Non, c'est pas un hasard. Vous voyez que le psaume est totalement christocentrique, centré sur Jésus-Christ, et ce n'est pas seulement les émotions de David qui sont exprimées ici, mais quelque part, prophétiquement, il nous annonce, il vit quelque chose qui appartient au Messie, qui va être sa descendance. Donc, on peut dire que justement, ces textes nous amènent dans un lieu de sécurité face à l'adversité. Nous allons un petit peu changer de psaume, le psaume 84, verset 10. À peu près les mêmes thématiques, mais je ne suis pas les mêmes auteurs. Hein. Voilà, psaume 84, verset 10. Hein. Toi, tu es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1 000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes du méchant. Car l'Éternel Dieu est le soleil, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, quelque part, reviens sur le 27. David dit ceci au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Qui est ce rocher? Christ. Vous voyez? Tout est centré sur Christ. Alors, je ne parle pas de moi, donc de Christ. Donc, mieux vaut, en effet, un jour dans tes parvis que 1 000 ailleurs. Donc, la version NBS, Nouvelle Bible Second, dit ceci: « J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sur les tentes de la méchanceté. » Psaume 84, verset 10, hein, on va vous en mêler. « J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sur la tente de la méchanceté. » Vous vous rappelez de Lamentation 3? Voici ce que je veux me remplacer. « J'ai dit l'Éternel » et la suite. Ici, le psalmiste dit « J'ai choisi ». Le psalmiste connaît son choix et sa préférence. Dans les deux cas, son désir se porte sur Dieu. Et donc, c'est lui qui prend fort de la connaissance qu'il a sur Dieu. Il dit « J'ai choisi ». Et en fait, c'est comme s'il disait à Dieu « Que ta volonté soit faite ». Alors, et donc, comme je le disais tout à l'heure par rapport à la prière, nous avons exprimé notre choix, hein, à désirer quelque chose. En effet, Dieu n'impose pas sa volonté, ni à quiconque. Fort de la connaissance que nous avons de lui, nous décidons, par un acte de foi, d'aller dans sa présence divine qui opère en nous. J'ai choisi. Quel choix fais-tu ce matin par rapport à la peur? Quel choix tu veux faire? De dire, moi, écoute, oui, il y en a qui disent que oui, c'est comme ça que je suis. Ah bon? Et c'est comme ça que tu veux rester? Parce que Jésus est venu libérer les captifs. On va y arriver tout à l'heure. Donc, quelle décision est la tienne face à la peur? Où veux-tu te tenir? Sur le rocher qui est Christ? Ou bien peut-être encore quelques expériences à faire demain ou après-demain sans avoir de garantie de résultat? Et donc, lorsqu'il dit « j'ai choisi », il déclenche sa volonté, mais l'obéissance qui va avec. Il déclenche aussi la promesse de Dieu. Juste cette prière qu'on pourrait faire ce matin, « Seigneur, je renonce à la peur, je choisis de me placer sous l'autorité de la puissance de Jésus-Christ, car tu es mon Yeshua, mon Dieu qui me sauve, car quiconque invoque ton nom sera sauvé. Je choisis de faire confiance, même, comme dit le chant, même lorsque c'est difficile, même lorsque ma foi est petite, parce que tu es mon appui, sur ta grandeur, je m'appuie, délivre-moi du mal. » On pourrait dire ça, hein, un exemple, hein, pour choisir un autre encore meilleur. Bon. Un élément dans le Notre Père. J'ajoute dans le Notre Père, Jésus évoque deux réalités. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons dit, au psaume, j'ai choisi. Mais dans le Notre Père, il y a deux verbes qui terminent le Notre Père. Il est question de « pardonne-nous nos offenses », cela concerne nos péchés, et puis après il est dit « délivre-nous du mal ». Pourquoi il ne s'est pas arrêté à simplement « pardonne-nous nos péchés » ? Ce serait bien, on n'a plus de péché, et puis c'est bon. Pourquoi ? Posez-nous la question. Pourquoi il manque à la fin « délivre-nous du mal » ou « du malin » ? Pourquoi il utilise le mot « délivrer » ? Peut-être qu'on a peur de ce mot. Délivre-nous du mal. Je suis délivré d'un danger, d'une puissance. On a vu dans 2 Corinthiens 10, verset 3-4, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ dans ma vie doit être abattu, amené par terre, captif, à l'obéissance. Ici, le Seigneur dit, délivre-nous du mal. Cela concerne la puissance qui me contrôle, ou bien qui a triomphé en moi. La peur se comporte parfois comme une puissance qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, d'être libre, et il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu la délivrance. Selon les paroles de Jésus, ce n'est pas moi qui l'écris, ouvrez votre Bible, c'est écrit, délivre-nous du mal. Disons les choses comme lui, n'essayons pas de faire, ah non, c'est peut-être pas ça le contexte. Ah bon? Allez-y. Quand il dit délivre-nous du mal, il se trompe. C'est pas délivrer ou c'est autre chose. Alors, on va prendre des fois une... D'ailleurs, toutes les traductions marchent ça. Ne cherchez pas une traduction qui va vous arranger. Non. Toutes les traductions disent « délivre-nous du mal ». Parce qu'il y a vraiment une délivrance à avoir. Et la délivrance, c'est contre la puissance du péché, parfois. Quelqu'un qui est alcoolique, par exemple, il va demander à Dieu pardon parce qu'il a, il boit et puis il a du mal. Et Dieu lui pardonne. Et 3 mois après, qu'est-ce qui se passe? C'est pas une logique, il peut recommencer. Est-ce que Dieu n'a pas pardonné? Oui, Dieu lui a pardonné. Mais est-ce qu'il a été délivré? Mais pourquoi il a commencé à... Il n'est pas délivré. Il a besoin d'une délivrance du Seigneur, la puissance de la croix. D'ailleurs, il le dit, il a dépouillé les puissances, les dominations, les autorités, et il a vécu. Hein? Donc, on a besoin d'une délivrance. Et ne croyez pas que si chaque fois au travail, vous êtes en colère, etc., que vous n'avez pas besoin de délivrer de la colère ou bien d'autres choses en vous. C'est parce qu'on a peur qu'on a besoin de délivrer. Quelque chose qui prend une... Tout d'un coup, on ne nous reconnaît plus, parfois. Je dis, mais c'est lui, là, qui a chanté « Seigneur, tu es mon roi », et puis juste à, pour un feu qu'on a grillé, il a pété les plombs, et puis, c'est quoi? Vous voyez combien on est fragile. Seigneur, je ne veux plus recommencer. Voici un témoignage qui m'est arrivé. On partait en vacances avec... je crois qu'on allait voir notre fils lorsqu'il était en Angoulême. Et puis, je roulais sur la Nationale 7 et puis je voulais dépasser une voiture. Je crois que c'est un camion, mais au moment où j'ai accéléré, à ce moment-là, j'ai vu un camion qui arrivait en face. J'ai eu le temps de passer et j'ai promis à Dieu, enfin, personne n'a rien vu, presque. J'ai dit, c'est fini, plus jamais, je vais essayer de refaire ce que j'ai fait. Et je ne le fais plus jamais. Je passe le temps qu'il faut derrière les camions, derrière la fumée. J'ai dit, Seigneur, j'aurais pu tuer ma femme et mes enfants et moi-même. Oui. Qu'est-ce qui me pousse? C'est peut-être l'ennemi. Il va dire, dépasse. Pour aller où? Pour où? Et donc, j'ai dit, non, c'est fini. J'ai tellement, je ne veux pas savoir comment j'ai regretté, mais... Bon, j'étais pardonné, mais j'ai dit au Seigneur, c'est fini ce truc-là. Alors, je prends mon domaine, mais ton domaine à toi, dans ta vie, est-ce que tu diras à Dieu, c'est fini? Ne demande pas à Dieu seulement de te pardonner, il va le faire. Mais combat le problème dans ta vie, si c'est la peur, dis maintenant, c'est fini. Je ne veux plus avoir peur du chef dans mon travail. C'est mon responsable, mais ce n'est pas mon chef. Dis non, tu ne me parles pas comme ça. Parce que non, je ne suis pas ton serpillère, je ne suis pas ton boy, même si je suis, etc. Il ne faut pas se laisser faire. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait prendre le fusil, hein, mais le fait-il spirituellement, pour combattre. Trop souvent, nous abdiquons pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Je reviens au sujet. Délivre-nous du mal. Délivre-nous. Parfois, c'est le malin. Hein, parfois, c'est ce qu'il a triomphé en nous. Et donc... Par la suite, le psalmiste éprouve une grande joie et une grande sécurité de connaître Dieu et de contempler sa magnificence dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de Satan, il me lèvera sur un rocher. Je l'ai déjà dit, c'est Christ. Qu'est-ce qu'on est bien sur ce rocher? Dans le livre d'Exode 32, je crois, lorsque Moïse disait à Dieu, je voulais te voir. Dieu lui a dit, tu ne pourras pas me voir, mais mets-toi dans ce rocher c'est Christ. Mes amis, ce rocher est tellement important pour nous aujourd'hui. Dans un monde d'incertitude et de relativisme, nous avons besoin d'un rocher particulièrement fort que le Seigneur. Hein? David dit justement, car l'Éternel est un soleil et un bouclier. Je vais juste, pour clore, aborder... le texte d'Ésaïe 61, pour aller dans le même sens. Ésaïe 61. Alors, il s'agit d'un texte prophétique qui parle de Jésus, qui a été repris dans Luc 4, n'est-ce pas? Luc 4, verset 16 à 20. Mais... voilà ce que dit Isaïe. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Tiens, on a l'impression de retrouver le Notre Père. La délivrance pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Que fait la peur, Lamentation 3? Je suis abattu. Vous croyez que ça va nous aider à de me laisser enfermer par mon passé? Je refuse de me laisser de laisser croire qu'il n'y a pas de marge de progression dans ce à quoi je cherche auprès de Dieu. Non, le Seigneur a fait cette promesse et il l'a vraiment réalisée lorsqu'il est venu dans son ministère, et particulièrement l'endroit où ça a été tellement extraordinaire, c'est à Golgotha. C'est là où la croix a donné une victoire sur trois choses: sur les esprits, sur Satan, sur le péché, mais aussi sur le vieil homme. Le vieil homme, ton vieil homme, notre vieil homme a été crucifié. Et c'est à la croix que Dieu apporte la réponse au vieil homme. Et donc c'est à la croix aussi que Dieu apporte ici, selon Isaïe 61, qui apporte la liberté à ceux qui sont prisonniers, la délivrance. Moi, j'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse vraiment crier à Dieu s'il y a un point quelque part dans nos vies pour lesquels on peut crier à Dieu. N'hésitez pas là où vous êtes, invoquez le Seigneur. Ne laissez pas ce jour passer, dire voilà, écoute, ce frère a bien parlé, mais on verra. Hein? Ce frère a bien parlé, mais bon, on attend le prochain dimanche et puis on garde le problème. Hein? Mais qu'est-ce qui va se passer? Rien de bon. Donc je crois que le Seigneur veut nous libérer. Le Seigneur veut faire agir selon ses promesses pour nous dire que nous sommes ses enfants, mais nous devons vivre dans cette liberté et prendre tout ce qu'il a pour nous ce matin. Enfin, ce matin, un petit peu, je ne sais pas tout, on ne pourra jamais tout prendre. Mais recevoir ce qu'il a pour nous ce matin pour vivre dans une vraie liberté. Hein? Ce n'est pas la COVID qui est notre chef. Hein? Un jour, ça disparaîtra. Mais ce que nous avons en nous-mêmes, cultivons-le comme un jardin, comme David a dit, l'Éternel est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Donc, le Saint-Esprit nous guide dans une proximité. Approchons-nous, dit Hébreux 16, verset 4, non, 4, verset 16, approchons-nous du trône de grâce afin d'obtenir la miséricorde, j'ajoute mon mot, dans les moments difficiles. Alors que le Seigneur nous bénisse, nous inspire notre démarche et nous procure. Alors, je ne sais pas si c'est permis, je ne vous connais pas, je vous mets un tac. Si c'est permis, on peut prier pour quelqu'un qui voudrait qu'on prie pour lui. Est-ce que ça peut se faire dans la maison du Seigneur? Hein? Jésus a demandé, est-ce qu'il est permis de faire un miracle dans le temple? Mais je crois à la prière. Hein? Je crois que le Seigneur agit. Je l'ai expérimenté plusieurs fois à Dominil, où l'ennemi voulait me faire peur, et ça n'a pas marché. Parce que, justement, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Alors, je ne veux pas être témoin de la peur ni de la faiblesse dans le sens négatif. Hein. Ce n'est pas par rapport au verset qu'on a dit tout à l'heure. Donc, le Seigneur nous encourage et vraiment pour assumer pleinement, enfin, pour le glorifier, en fait. Pour le glorifier, tout simplement. Ce n'est pas pour cela jouer, mais pour le glorifier. Tu es mon Père. Je regarde à toi, vraiment. Et moi, je ne veux pas rester comme je suis aujourd'hui. Je ne veux pas repartir comme je suis venu. C'est ça qui m'intéresse. Parce que je veux vivre dans la liberté. Je veux vivre et manifester les fruits de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? La paix d'abord. Non, l'amour, la paix. Et la résignation. On va prier. Seigneur, merci pour ton esprit, pour ta parole. Merci pour ce précieux trésor que nous avons en toi. Oui, Seigneur, tu es la lumière. Celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Je te rends grâce pour ce temps. Je te rends grâce pour toutes les compassions que tu as pour nous, toute l'amour que tu manifestes, mais aussi l'intérêt pour chacun, parce que tu veux accorder à chacun ta faveur ce matin, afin qu'il parte libre. Seigneur, je prie que tout ce que l'ennemi, l'homme fort, a pris soit lâché ce matin au nom de Jésus, que toutes les forteresses soient brisées, que l'ennemi fort puisse s'en aller maintenant, pour que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie de mon frère et de ma sœur, afin qu'il soit libre pour toi, pour sourire, pour être heureux en toi, parce que tu dis heureux l'homme à qui le péché est pardonné, dont la faute est effacée. Seigneur, tant que je me taisais, mais mes fautes n'étaient pas réglées, je prie que personne ne se taise devant toi pour repartir tel qu'il est venu, Seigneur. Merci de manifester ton esprit, manifester ta grandeur, Seigneur, parce que David, Isaïe dit, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci. Merci, mon frère.